Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette deuxième édition de Radio Foot International sur la radio mondiale. Avec cette soirée de folie autour de la Ligue des Champions, match nul à Madrid et à Londres. Mais quelle soirée pour ces premiers quarts de finale. Allez donc, et les matchs retour promettent. Déjà 3-3 entre le Real Madrid et Manchester City. Une rencontre au sommet emplie de rebondissements. Le Brésilien Rodrigo, joueur marquant dans les rangs merengue, Bernardo Silva, intenable. Côté Citizen, les hommes de Pep Guardiola ont-ils réalisé la bonne opération ou ceux de Carlo Ancelotti démontré qu'ils ne se rendent jamais? À Londres, 2-2 sur la pelouse d'Arsenal. Les Gunners ont arraché le nul après avoir été menés par un Bayern conquérant, des Bavarois si différents de l'équipe de Bundesliga. Et celle d'Arsenal peut être un peu fébrile face à l'enjeu. Nous allons en parler. Et puis nous évoquerons un documentaire qui nous a beaucoup plu à Deauville, mêlant le sport et l'éducation, les valeurs du sport et du football qui peuvent structurer un être humain. Et ce documentaire franco-allemand s'appelle « Apprendre à être ». Nous en parlerons. Mais nos invités sont là, fébriles, dans ce studio. Rémi Ngono, bonsoir.
Bonsoir Annie et bonsoir à tout le monde, à tous les Madrilènes, à la Maison Blanche. Pas d'inondation, on est debout.
Oui, vous êtes debout, c'est vrai que la maison n'a pas craqué. Bonsoir David Lortolari.
Assis, mais debout également. Bonsoir Annie, bonsoir Rémi, bonsoir
assis
à tous.
Assis sur un siège rouge, hein, ce qui en veut dire long. Bon, on est sur RFI, c'est rouge, mais c'est rouge aussi pour votre équipe.
C'est vrai.
Et pour celle d'Arsenal, match nul, on va en parler. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission, il veille David Finzel. Mathieu De Gueldre à la réalisation, Radio Foot, c'est parti. De la folie, il y en a eu dans le temple de Santiago Bernabéu ce soir. Un stade qui avait fermé son toit hein, pour que les chants résonnent mieux, n'est-ce pas Rémi? On les a entendus, notamment le Hala Madrid. Alors il y a eu, pour le départ, une fantastique arrivée de ces joueurs dans le stade. On a vu cette équipe, Rémi, d'abord, donnons le ton de la soirée à Madrid, parce qu'on a vu ce bus blanc traverser une haie de supporters. C'était dans les rues autour du stade, hein, bien sûr. Deux chevaux blancs devant, vous voyez Carlo Ancelotti assis à l'avant du bus. Une foule de supporters, est-ce que ça dénotait quand même une certaine peur, une certaine appréhension de la part des joueurs après les souvenirs quand même laissés par le 4-0 l'année dernière?
Non, il faut savoir qu'à Madrid, généralement, pour des grandes soirées européennes, il y a toujours quelque chose qu'on essaie d'inventer, mm-hmm. un carnaval et surtout aussi, on savait très bien que cet accueil pour Manchester City ne pouvait pas être facile. Déjà, les joueurs eux-mêmes avaient demandé à tout le monde de venir en blanc. Donc, L'Oréal voulait marquer son terrain, son territoire, il a marqué, l'ambiance y était, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont demandé à l'UEFA, même comme Manchester City s'est opposé à ce que le toit soit fermé, mais ils ont eu gain de cause et l'ambiance y était.
Alors, le score final de ce match de Dingo va revenir sur le scénario 3-3. Dit-il tout de cette rencontre, de la folie de ce quart de finale? Eh bien, on va écouter une première analyse d'un des acteurs de ce match. Et il s'agit de Camavinga, Eduardo Camavinga, au micro de nos confrères de Canal+.
C'est sûr qu'on s'est régalé, c'est ce type de match qu'on aime tout jouer. Après, voilà, on a mené, on s'est fait rattraper. Donc, c'est une équipe très, très compliquée. Voilà, on a eu une bonne semaine pour travailler avec le coach. On a su faire ce qu'il nous a dit. Après, voilà, on n'a pas forcément été récompensé à la fin de ce match-là, mais voilà, on a fait ce que le coach a dit. Il est fier de nous et le plus important, voilà, sera le match retour qui arrive.
Même si le but ne lui est pas attribué, puisque ça finit par être un but contre son camp de Ruben Diaz, mais en tout cas, Camavinga, on croyait que c'était lui qui avait ouvert le score, Rémi. Et après, un premier but de Bernardo Silva, donc on se disait, c'est l'homme qui sonne la remontée, quoi. Relevons la tête, on peut se dire, de la part de Camavinga.
Je devrais dire que Camavinga, pour moi, peut être considéré comme le meilleur joueur du Real.
Alors, commençons par ce but de Bernardo Silva. Il arrive à la deuxième minute, alors qu'on se disait qu'en général, on l'avait dit dans la première partie, Manchester City prenait des buts en début de rencontre. Et finalement, sur un contre, c'est City qui ouvre le score.
Oui, parce que...
Sur un coup franc.
Oui, parce qu'il y a une triple erreur. Erreur du coach. Parce que vous ne pouvez pas quand même, parce que dans cette histoire-là, il faut savoir que Tchouaméni n'est là que pour dépanner. Vous ne pouvez pas avoir votre vice-capitaine, qui est Nacho, qui a souvent joué. Et d'ailleurs, il reconnaît que même sur le plan aérien, il est bon, mais vous prenez quelqu'un qui...
Il y a un coup franc sur une erreur, voilà, de Tchouaméni.
C'est le premier ballon. Voilà, le premier ballon, et il fait un tacle qui n'est pas maîtrisé, alors qu'il savait d'office qu'il est sous la menace d'une suspension. Donc pour moi déjà, l'aligner même en défense centrale était une grosse faute professionnelle. Et deuxième chose, c'est que lorsque vous voyez comment est-ce que le mur est placé, cela veut dire que Lunin n'a pas pu lui-même déjà fermer un angle. On ne peut pas vous prendre sur cet angle, surtout à ras de terre. Mais bon, voilà. Donc pour moi...
Et Bernardo Silva a très bien vu la chose.
Bernardo Silva a vu ça parce que lui, il est parti se placer un peu plus loin, comme s'il attendait forcément un centre. Donc, il avait déjà donné les indications à Bernardo Silva, qui justement a dit à Grealish, tu ne tires pas, c'est moi. Donc, pratiquement, là, il y a eu... Ça a été beaucoup fébrile. Et d'ailleurs, le Real aurait pu prendre un deuxième but sur un cafouillage immédiat parce que, justement, une fois de plus, on a vu que Tchouaméni ne parvenait pas à dégager. Il voulait jouer... Je ne sais pas où une remise ou ceci. Et finalement, c'est Rudiger qui est venu essayer de nettoyer la maison. Lui qui a été très, très bon aujourd'hui et qui a pratiquement mis, bien sûr, Alan sous les teignoirs.
David Lortolari, cette équipe du Real, et notamment en prenant ce but d'entrée, mais aussi en étant menée au score assez longtemps de 1, est-ce qu'elle n'a pas révélé quand même son point faible, qui était la défense aujourd'hui? Alors on sait que Militao n'est pas là en ce moment, que Tchouaméni remplit une tâche qui n'est pas forcément la sienne.
Oui, mais alors les quatre équipes qui ont joué ce soir ont des problèmes de défense face à des attaques aussi performantes de tous les côtés. On va l'évoquer aussi avec l'autre match. Certes, mais il y a quand même cette capacité du Real. Vous prenez un but par Manchester City à la deuxième minute. Quelque part, c'est terminé l'histoire. Eh ben non! Vous allez marquer deux fois coup sur coup en deux minutes aussi, donc proposer une réaction. Et à la fois aussi dans le dernier quart d'heure du match, la même chose, encore une réaction. Il n'y a jamais eu plus d'un but d'écart dans cette partie. À Nice, si on refait le fil des buts, ça veut dire réaction du Real une première fois, réaction du Real une deuxième fois. Moi, j'ai bien aimé la réaction de Camavinga à l'instant qu'on entendait au micro de Canal+, parce qu'il montre, certes, à chaud, mais il montre qu'il en a encore... Il a encore de l'appétit, il a encore de l'énergie, que rien n'est terminé, que c'est le Real, qu'il y a de la magie, qu'on peut marquer deux buts en deux minutes, qu'on peut se relever d'avoir face à soi une équipe qui pratique un football quasiment total. C'est-à-dire que ça joue, tout le danger vient de partout et le Real se relève une fois, deux fois. Il est ébranlé, c'est vrai, mais il est là.
Rémi, ce danger, il vient de partout. Et en même temps, ce soir, du côté offensif, il y avait quand même des imprécisions. Parce que le score aurait pu être plus lourd à la limite pour le Real. Encore plus que ces trois buts.
Oui, je vais d'abord préciser une chose, c'est que sur le plan défensif, il faut savoir que le Real en Liga n'a pris que 20 buts. C'est-à-dire que c'est la meilleure défense. Mm-hmm. Pour l'instant, bien que les joueurs soient blessés. Ce Real, aujourd'hui également, il faut savoir, si on parle aussi du côté de Manchester City, on peut dire que Manchester City également peut montrer quelques faiblités défensives. Mais cependant, je vais dire, c'est vrai que quand vous regardez le facteur X du Real n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius. C'est plutôt Rodrigo qui a créé beaucoup plus de problèmes. C'est vrai que quand on essaie de regarder les passes décisives, oui, c'est bien, il a joué, et on peut déjà se dire que, bon, oui, il est là peut-être à 12, on peut se dire 12 buts et peut-être 4 passes décisives. Mais bon, quand on essaie de voir tout le match, le côté où on l'attendait, d'autant plus que Kyle Walker n'était pas là, on se disait qu'il allait réussir les 1 contre 1. Or, vous voyez, il n'a pas gagné de duel aujourd'hui. Il n'a pas gagné. Et d'ailleurs, rarement, Carlo Ancelotti le sort. Et puis, il a aussi gagné des duels face au gardien. Il n'a pas été adroit. Ça, ce côté-là, on peut quand même se dire que, oui, le Real a péché. Mais cependant, on peut féliciter ce Real. Parce qu'il faut quand même se dire que...
C'est ce que j'ai fait, Rémi.
Le Real, le Real, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts à Manchester City. Ça fait déjà 17 buts en Ligue des Champions. Quand on voit ça, c'est quand même assez énorme. Et lorsqu'on voit aussi l'attaque de Manchester City, cette attaque de Manchester City aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle a été clinique. Parce qu'il faut savoir que Manchester City a quand même eu... 50% de réussite, hein. 6 tirs cadrés, 3 buts. Et les buts, les 2 buts de Manchester City étaient pratiquement inévitables. Par le gardien de but, quand on essaie de voir Guardiola, son but, quand on voit le but de Phil Foden, c'est pas possible. Mais il y a eu un petit marquage. Pourquoi ? Parce que, et c'est là où je reproche à Carlo Ancelotti, qui jouait quand même son 200e match de Ligue des Champions. Ouais. Parce que lorsque vous regardez ces buts-là, eh bien, vous constatez que celui qui doit jouer la clé de voûte, c'est-à-dire numéro 6, ce n'est pas le poste de Kroos. Il était en retard et ça laissait la latitude aux joueurs de Manchester City de déclencher hors de la surface de réparation. Or, si Tchouaméni était là et on mettait plutôt Nacho comme défenseur, là, c'est le poste de Tchouaméni qui sait très bien qui a remplacé quelqu'un comme Casemiro. Mais là, Kroos, et d'ailleurs, sur le 3e but, il était déjà complètement cramé.
David.
Rémi a totalement raison sur ce point de ce que j'ai vécu aussi dans les dernières semaines avec le retour de Kroos en équipe nationale. Il a besoin... pour pouvoir rayonner, pour pouvoir jouer à son rythme, pour pouvoir durer sur un match. Il a besoin, je vais dire une expression qui est peut-être un peu désagréable, mais un chien de garde, c'est-à-dire une personne qui va faire le boulot à côté de lui, Robert Andrich en équipe nationale. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec la lecture de Rémi, ça n'est pas le travail de Toni Kroos à la 70e minute. Enfin, ce n'est pas le travail, bien sûr que si, il doit être capable de tout faire sur une action, mais... Il a 1m50 de retard au moment où il y a Guardiola qui déclenche sa frappe. Ouais. C'est un peu pareil sur l'autre but. On ne peut pas lui reprocher ça, mais il y a besoin, on ne va pas donner des leçons tactiques à Carlo Ancelotti, d'un joueur en plus auprès de Toni Kroos pour boucher ce petit espace. Évidemment, contre Foden, si vous laissez 50 cm, le danger est immédiat.
C'est impossible.
Ouais. En tout cas, à la lecture des buts, on peut aussi un peu comprendre le déroulé du match, hein, puisque ce coup franc donc de Bernardo Silva, c'est à la 2e. Ensuite, effectivement, on aura la révolte des merengues un peu sonnés au départ. Et puis, on aura ce but à la 12e minute de Camavinga contré par Diaz. Rodrigo marque à la 14e. Et c'est une superbe passe de Vinicius, je crois d'ailleurs, en travers du terrain qui fait cette passe très longue et qui offre le but à Rodrigo qui lui aussi contré mais qui le glisse en plus entre les jambes de son adversaire et ça rentre à une vitesse très lente.
Très lente, mon cœur allait s'arrêter. J'ai failli entrer à la télé comme... Vas-y, c'est quoi ?
Et il est rentré ce ballon, il a franchi la ligne. Et puis ensuite, les Citizens là reviennent. 66e minute, c'est le but de Foden en deuxième mi-temps. On sépare à la mi-temps sur le 2-1. Il y a Guardiola qui va marquer à la 71e. Et puis alors, Rémi, racontez-nous l'égalisation, parce qu'elle est folle aussi, cette égalisation. Encore Vinicius.
Oui, parce que...
Sur une passe décisive, géniale.
En fait, Vinicius voit quand même que tout le monde est déjà parti au-delà des 6 mètres. Alors, mais il se rappelle quand même que Carlo Ancelotti a toujours dit, a toujours demandé justement à Valverde d'être soit un peu décalé, soit quand c'est un corner, de sortir de la surface de réparation. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement. Mais sauf que la reprise de volée, c'est vraiment en extérieur, c'est à une vitesse astronomique, d'autant plus que je venais de faire des reproches à Valverde qui venait de louper 2 tirs et qui partait cueillir des mangues. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il tire comme ça et il ne progresse pas. Alors que normalement, c'est quelqu'un qui a une frappe avec une précision chirurgicale. Donc, pratiquement là, c'était une égalisation et surtout dans le petit filet, c'était clinique.
Des statistiques nous disent qu'il y a pratiquement 5 buts par match quand c'est le Real Madrid qui joue contre Manchester City. Alors on en a eu 6 ce soir. C'est vrai que cette pluie de buts, on se demandait, on se disait même tout à l'heure dans la première partie, il y aura peut-être un but d'écart, un but qui fera la différence. Et finalement, peut-être que c'est aussi très difficile de différencier ces deux équipes, David. Voir, après on va revenir sur l'autre match aussi, mais ces 4 équipes, on le disait, il y a des niveaux qui, tout d'un coup, en Ligue des Champions, où on son niveau, où on a un niveau différent. Et là, ce Real City, on se souvient l'an dernier, cette fessée au match retour de ce 4-0 qui avait impacté les esprits, surtout Meringue. Et finalement, là, on se retrouve avec un match encore dingue.
J'ose croire à ce mano à mano et avec des choses quand même qui ne sont pas écrites. C'est-à-dire que Pep Guardiola a quand même dans les buts le gardien Ortega qui était à l'Arminia Bielefeld avant de venir au Real Madrid. Alors, très bon gardien en Allemagne, mais 6, 7, 8e gardien allemand, quand même, c'est bon. Pep Guardiola, il a Akanji arrière-droit, c'est pas un arrière-droit. Il a Guardiola arrière-gauche, c'est pas un arrière-gauche.
C'est lui qui fait aussi des erreurs.
Des erreurs. Hein. Donc, il y a quand même des facteurs aussi. Parlait Rémi tout à l'heure du facteur X avec Vinicius, mais il y a des facteurs qui peuvent permettre des choses dans des matchs comme ça. On se régalait devant le match en voyant que on le rappelle régulièrement, le football, ça appelle quand même des erreurs, surtout à cette vitesse, avec cette intensité. Des erreurs parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont capables, sur 50 cm, clac, de faire le geste juste. Rémi décrivait le dernier but, mais il y a aussi celui de Foden, il y a aussi celui de Guardiola qui part d'un contrôle raté. Et finalement, ça déséquilibre un peu la défense aussi. Donc, il va se passer des choses au match retour. C'est l'espoir peut-être pour le Real aussi à Nice. C'est-à-dire qu'on peut marquer des buts à cette équipe de Manchester City qui, elle, on en est sûr, sur son terrain, va en marquer aussi. Donc, spectacle assuré dans une semaine.
Mais justement, alors, voyons de ce côté aussi de City, avant de voir les forces en présence pour le match retour. Côté City, une énorme absence, Rémi, c'est celle de Kevin De Bruyne bien sûr. Absent, vraisemblablement malade, souffrant. En tout cas, il était assis dans le stade, mais il n'était pas en capacité de jouer. Et ça, c'était un grand manque pour les Citizens. Et puis Erling Haaland, très effacé.
Il faut savoir que même la saison dernière, Erling Haaland n'avait pas touché une seule balle. Cette fois-ci même, il a essayé il a obtenu une faute. Il a obtenu une faute. C'est-à-dire qu'on peut même dire. Mais Erling Haaland, moi, je crois toujours que c'est une faute.
Est-ce que c'était Kevin De Bruyne qui lui manquait, qui l'approvisionne des fois à des passes géniales qu'on
Kevin
a déjà
De Bruyne
vu.
Était là la saison dernière. Et moi, je peux d'ailleurs dire que c'est là où, d'ailleurs, le système Ancelotti a été un peu pris de court. Parce qu'on ne s'attendait pas à Grealish. On s'attendait plutôt à Kevin De Bruyne et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs mis Kamavinga qui devait empêcher à Kevin De Bruyne de pouvoir relancer immédiatement parce qu'on avait déjà détecté ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le Real a été un peu surpris par le fait que finalement, Carvajal était obligé de se positionner aux côtés de Grealish. C'était pas ça qui était prévu. Donc, et du coup, ça a un peu déséquilibré, ça déséquilibre un peu le Real Madrid. Moi, je crois que on s'attendait à Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, il peut bien avoir l'œil. Mais lorsqu'il a un chien de garde à côté de lui, ça peut aussi être dangereux. Et quand vous regardez le match contre, par exemple, Liverpool, ou même quand vous regardez le match contre Chelsea, eh bien, vous allez voir les mêmes choses. On muselle Kevin De Bruyne. Et puis, de l'autre côté, on ne voit pratiquement pas Haaland. Haaland, c'est quelqu'un qui attend des balles en cloche. Ben c'est oui. quelqu'un qui va gagner drôle, des duels. Mais quand tu te retrouves devant, justement, quelqu'un qui connaît le duel. C'est-à-dire que Rudiger, il est rude. Alors là, tu ne peux pas gagner. Donc, pratiquement, et c'est là où il risque d'avoir des soucis aussi. Parce qu'on se dit, Militao pourrait déjà rejouer. Et puis, il va encore avoir devant lui un Rudiger, contrairement à la saison dernière où il l'a malmené, maltraité à Alaba. Donc, cette fois-ci, quand il a un défenseur rugueux, vous avez vu, par exemple, Saliba avec Arsenal, mais ils l'ont éteint complètement. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que c'est un joueur moyen, c'est un joueur qui peut tirer, mais c'est pas un joueur qui peut être comme Mbappé. Il n'a pas la technique pour éliminer, pour participer au jeu. Il ne peut faire que des déviations et quelqu'un qui est à côté de lui peut profiter des deuxièmes ballons.
En tout cas, bon, même avec ou sans Haaland présent ou effacé, ils ont bien réussi à dominer aussi cette rencontre, puisque ramener un 3-3 de Madrid, David Lortolaru, ça veut dire que vous êtes favori pour le match retour?
Oui, on a oublié.
Quand on se souvient du match retour l'an dernier, on a peut-être peur.
Pour les anciens qui ont connu la règle du but à l'extérieur, si vous marquez trois fois à l'extérieur, vous êtes quand même très à l'abri. Ce confort a disparu. Il faut relativiser par rapport à un match nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 0-0 à la fin du match retour, ce que personne ne croit, il faudra continuer à jouer. Alors que Manchester City, dans l'ancienne règle, serait qualifié pour les demi-finales. Il va y avoir plein d'incertitudes. Pour relativiser le développement de Rémi sur Haaland, il marque quand même régulièrement des buts face aux meilleurs clubs de Première Ligue. Moi, ce que j'ai connu avec Dortmund, c'était que c'était un joueur qui était toujours en marche avant. Donc effectivement, De Bruyne, qui va donner des passes dans la course, des passes précises, c'est forcément une arme pour Erling Haaland. S'il n'est pas là, c'est une arme en moins pour lui. Et par ailleurs, il y a plein d'attaquants, on pense à Lewandowski, on pense à d'autres aussi, qui dans les gros matchs, très gros matchs, sont enfermés dans un entonnoir et n'ont pas l'occasion de s'exprimer.
Et ça libère les autres.
Exactement.
Ouais, parce que Guardiola qui marque un but, c'est quand même un peu inattendu.
Façon Pavard un peu. Ouais.
Et puis on a Foden, évidemment, toujours l'incontrôlable. Bernardo Silva, enfin, il y en a tellement d'autres qui peuvent le faire.
Foden Rémi, impliqué déjà dans 32 buts.
Ouais. Mais Rémi, ça va être dur le match retour.
Oui, ça va être...
Mais ça risque d'être aussi spectaculaire, c'est ça?
Oui. Hein? Vous savez, les erreurs de la saison dernière ne vont pas se répéter. Il manquait de l'intensité, manquait l'engagement, il manquait même de la technicité. Et puis, il y avait
Ils sont déjà en train de se préparer pour le match retour.
Voilà. Donc, maintenant, je crois que pour le match retour, on ne peut pas se dire... Bon, vous savez, le Real a été malmené, les gens l'oublient, à domicile par Leipzig. C'est-à-dire que,
oui,
mais c'est à
juste.
L'extérieur que le Real a eu cette qualification. Hein. C'est-à-dire qu'au Bernabeu, Leipzig nous a sérieusement malmené plus que Manchester City. Donc, ce Real n'a rien à perdre. Et ce Real, aujourd'hui, a d'autres pions qui peuvent entrer et qui peuvent perturber la défense de Manchester. C'est-à-dire que, quand vous essayez quand même de regarder, ne serait-ce que Brahim, qui peut entrer... Il peut faire mal. Il peut faire très, très mal. La preuve, c'est qu'il a fait. Il a contraint d'ailleurs Bernardo Silva à défendre et à avoir un carton jaune. Donc, ce Real n'est pas celui de l'année dernière. Et ce Real, bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui Bellingham, mais il sera en Angleterre chez lui.
Alors on verra et on se donne déjà rendez-vous pour le match retour. Mais allons justement en Angleterre et allons du côté de Londres.
Saka dans la surface, c'est pour l'ouverture du score. Saka a échappé à Alphonso Davies qui trouve l'ouverture après 12 minutes de jeu. Goretzka à l'entrée de la surface qui peut transmettre à Serge Gnabry le jaillissement de Serge Gnabry à contre. Ça part d'une mauvaise relance. Ça l'est toujours, ça l'est encore dans la surface.
beaucoup de buts là aussi à l'Emirates de Londres, presque autant de folie et d'intensité. Score final 2-2, mais les joueurs d'Arteta ont eu beaucoup de mal. Ils ont quand même réussi à arracher l'égalisation de ce 2-2 en fin de parcours. Est-ce que ce score, et notamment l'attitude du Bayern qui menait 2-1 à la mi-temps, hein, parce qu'on avait deux scores de 2-1 au mi-temps sur les deux matchs, David Lortolari, est-ce que ça vous a surpris ?
Alors oui et non. Oui, parce qu'on imaginait en avant-match un Bayern qui coule, conformément à ce qu'il a montré dernièrement, une défaite contre Dortmund, une défaite contre Heidenheim en championnat qui est 11e. On s'imaginait un Bayern qui pouvait, à Arsenal, à Londres, contre le premier du championnat d'Angleterre, perdre 3-0 et rentrer et terminer la saison. On imaginait aussi que le Bayern pouvait se mettre en mode Ligue des Champions et même aller gagner à Londres. Il l'a fait plusieurs fois dans son histoire. Finalement, on est entre les deux et on retombe quand même dans une forme un peu de logique. Le Bayern n'a pas montré de logique du tout cette saison. Il a été gagné des fois 8-0. Le match d'après, il perd piteusement. Il a été battu 5-1 par Francfort. Le match suivant, il se réveille. Il a été éliminé en Coupe d'Allemagne par un club de 3e division, Saarbrück. Le match d'après, il se réveille. Donc ça a été un Bayern complètement illisible. Le grand quotidien très sérieux de Munich, le Süddeutsche Zeitung, titre ce soir. Le Bayern toujours aussi illisible. Mais on est quand même retombé sur quelque chose d'à peu près logique. Par rapport à ce qu'on a vu sur l'heure et demie de jeu, du bon Arsenal, du bon Bayern, un match nul, ça me paraît finalement assez rationnel, assez cohérent, alors que pendant toute la saison, j'écoutais encore les éditorialistes hier, on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre avec ce Bayern. Alors, il y a encore des valeurs sûres.
Mais pourquoi avoir un Bayern, finalement, on a l'impression européen? Qui est à son niveau. Des épreuves qu'il rencontre et des adversaires qu'il rencontre. Et puis en championnat, est-ce qu'ils ont... Alors, on sait qu'ils sont à 13 points du Bayer Leverkusen.
16 maintenant, même Annie.
Et même 16 à 16. Maintenant. Mais alors, surtout, être humilié, je dirais, comme ils l'ont été là, en perdant face au 10e du championnat. Ouais. Est-ce qu'on peut lâcher à ce point-là un championnat quand on s'appelle le Bayern de Munich?
Alors, il y a eu...
Ou est-ce que c'est des remous internes, des histoires qu'on ne comprend pas tellement ?
Il y a plus d'une dizaine d'années de domination et il y a des joueurs repus, rassasiés, certains, dit-on de manière méchante, sont surpayés. Il y a eu des erreurs peut-être aussi dans le casting, des choses comme ça.
Et lesquels sont rassasiés ? Quelqu'un comme Thomas Müller ?
Non.
Alors
lui,
qu'il
non.
a tellement gagné.
Non, mais Alphonso
Davies, toujours.
Alphonso Davies, par exemple, qui a été assez médiocre pendant la saison, réclame 20 millions d'euros par an, réclame donc une hausse de salaire conséquente, fait entendre qu'il veut aller au Real, peut-être que ce sera d'ailleurs une réalité. Il n'a pas répondu présent cette saison. Il est encore fautif deux fois ce soir, deux fois. Il fait des belles choses, mais il fait aussi des erreurs gênantes. Et il fait partie de ces joueurs qui... on a l'impression, sont vraiment « zat », on dit en allemand, c'est-à-dire « repus », c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont devenus des sénateurs. Ouais. Mais Annie, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ces joueurs-là retrouvent leur qualité.
Oui. Et puis s'exposent.
Oui. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la réalité quand on évoque cela. Le championnat est maintenant lâché depuis plusieurs semaines. Et en Ligue des Champions, on a de la fraîcheur aussi, parce que contrairement à Arsenal, on ne lutte plus pour le titre. Peut-être que ça peut jouer aussi sur un match retour. Et puis les joueurs, des Kimmich, des Goretzka, des Gnabry, des Sané, ils retrouvent la proximité de leur meilleur niveau dans des matchs comme ça. Et finalement, on ne doit pas être surpris qu'ils soient capables de faire un bon match.
Rémi, Arsenal, on sait que ce n'est pas l'équipe que vous aimez le plus en Angleterre. Mais Arsenal, est-ce que ce soir, vous attendiez plus ou vous pensiez que face au Bayern, ça serait compliqué ?
Quand nous étions en studio, je vous ai dit, je crois plus au Bayern qu'à Arsenal. Pourquoi ? Parce que vous n'avez qu'à regarder la qualification d'Arsenal. C'est-à-dire à Porto.
Contre Porto. On en a parlé dans la première partie de l'émission.
Voilà, c'était très compliqué. Et moi, j'ai vu ça comme ça. Et il faut aussi savoir que le Bayern peut avoir des circonstances atténuantes. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez vu que le roi Sané, d'ailleurs, on ne l'imaginait même pas titulaire. Ouais. Et il y a le retour de Coman avec des blessures. Neuer a joué. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un défenseur de cette envergure-là. Et puis, sur le plan défensif, ils ont d'ailleurs fait un réaménagement, puisque vous avez pu voir que Upamecano n'a pas joué parce qu'il devient un peu de plus en plus lourd comme un camion remorque, voire entre marchandises. Bon, et de l'autre côté, vous avez De Ligt qui, lui, il n'a pas été
De Ligt. Ça fait quand même sourire, David Lantonari.
Il n'a pas été De Ligt, tu vois. Il a été bon, il a été assez consistant cette fois-ci. C'est celui-là qu'on attendait. Ouais. Donc, aujourd'hui, à part peut-être Davis qui... pour moi, commis quelques... parce qu'il n'a plus la tête là-bas.
Oui, c'est ça.
Oui, mais quand vous regardez ce Bayern-là et vous regardez ce que Arsenal a produit, vous vous dites quand même que le Bayern a eu des possibilités. Mais sauf que... Kane, bien évidemment, a été peut-être muselé, même s'il marque le but,
le penalty, mais
quand on essaie de regarder, cet Arsenal n'a pas été dominant, parce que dominateur...
Ils ont quand même ouvert le score, en plus grâce à Saka, Saka qui en 8 matchs de Ligue des Champions marque 8 buts, donc on se dit, sur le coup, c'est bien parti.
On ne s'attendait pas à ça. Qu'est-ce que les pronostics disaient? C'était 64,68% de victoire pour Arsenal. C'est-à-dire que Bayern Munich n'était même pas... Vous comprenez?
J'ai été surpris par les cotes.
Voilà, si vous regardez ces cotes-là, cela veut dire que Arsenal a fait un mauvais match. Et d'ailleurs, une équipe comme Arsenal, lorsqu'on connaît la foultitude de buts que cette équipe marque, mais Arsenal n'a cadré que 2 fois pour 2 buts.
David Lantonari, une chose, il y a une polémique un petit peu du côté du club allemand et de la presse allemande, pensant que un pénalty aurait dû être accordé à Harry Kane.
Il y a effectivement en seconde période, au moment où le Bayern mène 2-1 encore, avant l'égalisation de Trossard à la 76e, il y a un Harry Kane qui est ceinturé, pas du tout à distance de jeu, loin du ballon, qui est ceinturé de manière... sur le ralenti, pour nous, c'est limpide, c'est évident. Il est ceinturé, il est retenu.
On a vu Haaland ceinturé par Rudiger aussi sur l'autre terrain en parallèle.
Ça peut faire basculer définitivement cette confrontation. Il y a aussi un poteau en fin de match de Coman qui aurait pu donner un avantage encore au Bayern.
Haaland n'a pas été ceinturé dans la surface.
Non, exactement.
C'est la différence. Il faut cette précision. Voilà.
Mais Saka aussi, plus ou moins, un geste de Neuer. On se demande s'il n'y aurait pas eu un pénalty.
Il va chercher la faute.
C'est lui qui va... voilà, il a déjà perdu la balle et puis il va percuter.
On parlait de Haaland, Annie. Harry Kane, 6e but contre Arsenal. Personne n'a fait mieux à l'Emirates depuis la construction du stade en 2006. Personne n'a fait mieux que Harry Kane. Harry Kane, on se disait, bon, il va peut-être avoir faim contre Arsenal. Ça s'est montré parce qu'il marque un beau pénalty, je veux dire, lucide, limpide. Mm-hmm. Et Serge Gnabry a joué à Arsenal jusqu'à il y a 10 ans en arrière. Et il marque un but ce soir. Donc il y a aussi pour les joueurs de haut niveau
plus fait
ce ressort-là.
Il a même plus fait du mal que Saka. Parce que lui, il s'est percé côté gauche à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faisait trembler la défense. Parce que moi, je m'attendais au débordement incroyable, tout feu, tout flamme de Saka. Mais Saka
au
pouvait
départ, oui.
Ralentir. Il n'était pas aussi incisif qu'avant. Mais Gnabry, c'était incroyable. Il était affamé.
Mais il a été longtemps absent. L'astuce, Annie, pour faire très court, l'astuce de Tuchel. Le roi Sané, Rémi le disait, de retour avec de la fraîcheur, avec de l'envie. Gnabry n'a pas joué pendant des mois de la fraîcheur, de l'envie. Les deux défenseurs centraux, De Ligt et Dyer, n'ont pas joué ce week-end assez frais. Ça peut être un avantage, peut-être.
On va l'écouter, Thomas Tuchel, toujours au micro de nos confrères de la télévision. Thomas Tuchel qui évoque plutôt un bon match et surtout ses espoirs.
C'était possible de gagner, mais c'était un match très dur parce qu'Arsenal sont très très forts. L'atmosphère était exceptionnelle pour eux, pas pour nous. C'était très difficile de jouer ici. Mais on a eu des difficultés, mais on n'a jamais arrêté de montrer mentalité et un effort collectif. Ça, c'était très très important. La situation maintenant pour la semaine prochaine est très claire. On a la mentalité et on a l'expérience et on veut absolument jouer à Wembley. Ça, c'est le but, mais c'est le but pour tous les 8 équipes dans les 4e finales.
Et oui, parce que Wembley ne sera pas le match retour. Hein. Wembley, c'est le match de la finale, le 1er juin prochain. Donc, bah, Thomas Tuchel, on le sait, de toute façon, le Bayern a tout misé sur cette Ligue des Champions.
Désormais, ça a été clair ce soir que les joueurs se mobilisent pour ça. Et effectivement, ça leur permet d'avoir de l'espoir. Mais ça fait quand même des montagnes russes qui sont dangereuses. Parce qu'en championnat, vous abandonnez, vous êtes démobilisé. En Ligue des Champions, vous vous remobilisez. Mais on ne peut pas, en appuyant sur un bouton, redevenir forcément très très fort. En tout cas, la presse allemande, elle, coud le fil depuis quelques semaines d'un possible remake de la finale 2013. On en est loin encore entre Dortmund et le Bayern en finale. Ils espèrent et l'espoir Dortmund. Est... Oui, Dortmund qui est dans l'autre partie de tableau et qui pourrait accéder à la finale, qui jouera demain. Bon, on en est loin encore, mais c'est quelque chose qui peut les motiver, les Bavarois, c'est clair.
Voilà pour ce qui est donc de cette folle soirée de quart de finale de Ligue des Champions. Vous le savez, demain, il y en aura encore. Et demain, il y aura notamment un PSG-Barça. Mais nous y reviendrons pour le moment. Revenons à Deauville, le temps d'un documentaire projeté au premier festival du documentaire Sportdoc. C'était tout à l'heure dans la première partie de Radio Foot avec Philippe Doucet, Hervé Penaud et Bruno Constant. Le clapotis des vagues et les mouettes. Hein, c'est zen,
on se
croirait
dans un film de je sais pas qui.
Lelouch.
Lelouch, on va chercher son nom. Claude Lelouch. Un homme, une femme.
Petit retour donc à Deauville. Ben, on est allé sur les lieux. On a photographié la plaque où ça s'était passé. Alors nous y étions la semaine dernière pour ce Sportdoc, ce premier festival du documentaire sportif. Et il mettait en valeur, notamment dans la programmation, ce parallèle entre éducation et valeurs sportives ou comment de futurs athlètes de haut niveau suivent aussi une éducation qui leur sera utile toute leur vie. Et on va entendre la réalisatrice de ce documentaire, Christina Hockel, une Allemande, puisque c'est un documentaire franco-allemand. C'est le documentaire qui s'appelle donc « Apprendre à être » et elle nous explique la philosophie de ces 18 minutes.
À la base, l'idée ou la réflexion, c'était de se poser la question pourquoi il y a certaines personnes qui ont un engagement sociétal, qui essayent de faire le monde un peu mieux qu'avant, et il y en a d'autres qui soit sont indifférents, soit voire contribuent à la destruction de ce monde. Et est-ce que l'école ou l'éducation, et plus précisément les pédagogues, ont joué un rôle là-dedans ? Et on a essayé de trouver des protagonistes, on a trouvé dans des écoles allemandes, anglaises et dans le sport avec Philippe Breteau qui est vraiment un très impressionnant autant que pédagogue. Et on a essayé de montrer un modèle d'éducation du 21e siècle. Parce qu'en fait, comme le monde se présente aujourd'hui, ça ne suffit plus d'apprendre les maths, de pouvoir réciter certaines choses. Si on veut que les jeunes générations soient résilients ou peuvent gérer ce monde et en plus dans le meilleur des cas contribue à quelque chose de positif, il faut former des personnalités et c'est ça ce qu'on a essayé de mettre en scène à travers ce film, des pédagogues qui sont capables d'accompagner un tel développement personnel chez les jeunes.
C'est ce qui était important dans ce documentaire et c'est la raison pour laquelle vous l'aviez sélectionné, Philippe.
Oui, parce que j'ai comme j'étais en tant que directeur de la programmation, évidemment, j'ai suivi...
Ah, t'étais directeur de la programmation.
Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah,
je ne sais pas, est-ce que je peux encore te tutoyer?
Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous pouvez, cher Hervé. Non, mais ce qui était très intéressant, moi j'ai suivi la progression d'un certain nombre de films de ce genre-là et je suivais les informations autour de notamment ce film auprès de Philippe Breteau, le formateur français. Mmh. Et oui, ce côté sociétal, ce côté éducatif, ce côté pédagogique faisait partie des critères intéressants. Vous remarquerez que dans le palmarès, en dehors de ce film, j'élargis un tout petit peu, il y a beaucoup de films qui étaient soit pour la gente féminine, soit plus sociétaux, plus qu'un jeu, par exemple. Bien sûr, le Grand Prix était un film sur les filles du Stade français en rugby. Donc, il y avait cette recherche et ce film correspondait complètement à cette recherche de films qui cherchent du sens, qui donnent du sens au sport.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur une planète différente, en fait, les footballeurs, même si on leur fait faire 5 ou 6 heures de football par jour. En tout cas, il y a quelque chose derrière qui est... bien, donner de l'éducation à des êtres humains. Et on va l'entendre justement, Philippe Breteau. Lui, il est de l'Institut National du Football, hein, de l'INF. C'est l'antichambre des futurs membres de l'équipe de France.
Il a eu Mbappé d'ailleurs.
Il a eu Mbappé, il a eu Thierry Henry, il a eu beaucoup, beaucoup de tous ces joueurs qu'on a vus ensuite apparaître et qui sont passés par l'INF. Ils sont à Clairefontaine et puis ils sont aussi dans le centre de la France. Il y a deux centres, en fait, de lieux où ils s'entraînent. Et on va l'entendre d'abord, Philippe Breteau. Comment il s'exprime quand il parle à un enfant ?
Ce qui est important, c'est de garder les valeurs. C'est-à-dire que quelle que soit la culture, quel que soit le pays, toutes les civilisations se sont inscrites sur une histoire. Donc il faut avoir une histoire qui est transmise par les anciens et que l'on veut transmettre à nos jeunes. Après, il y a une société qui bouge là énormément. Énormément. On a connu donc la civilisation et le monde du transport où ça allait trois fois plus vite là, pour nos parents et nos grands-parents. Là, ils ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir aller aussi vite dans un autre pays. Les jeunes actuels sont capables de faire trois choses en même temps. Par contre, ils sont incapables d'être concentrés plus de 8 à 10 minutes. Donc, comment on fait pour garder la même capacité d'éducation et d'essayer de toujours les amener à aller plus loin? Donc, nous, on veut garder toujours sur l'éducation, parce que ça nous passionne, un temps d'avance.
Voilà cet éducateur, on va l'entendre, c'est un des extraits de ce documentaire quand il parle à un de ses protégés.
Quelles sont tes inquiétudes actuellement?
Moi, actuellement, de pas signer dans un club.
Donc, est-ce que ça doit te paralyser, ça?
Non.
Si tu es bon, est-ce que tu passeras dans un club?
Oui.
Si tu as un club et que tu es mauvais, est-ce que tu seras pro?
Non.
Voilà, t'as tout compris. Il faut progresser. Si demain t'as un club ou pas un club, ça change rien. Il faut toujours avancer.
Hein ? Oui. D'autant plus ce message, Philippe, qu'effectivement, heureusement qu'il leur inculque des valeurs autres, parce que dans un centre comme l'INF, il y a combien d'élus ? On parle de Mbappé, on parle de tous ceux qui sont passés effectivement par là. L'Inkunku, qu'il a connu, Philippe Breteau, et tous ces joueurs, Coman sans doute, et ces joueurs. Mais tous n'iront pas aussi haut, justement. Ils n'étront pas, en tout cas, la même lumière, même s'ils jouent toute leur vie en D2.
D'où l'intérêt, évidemment, de former des hommes. Mais je trouve l'intérêt du documentaire, c'est ça. C'est presque paradoxal de prendre comme base, parce que c'est le départ, le point de vue de départ du documentaire, c'est de voir des jeunes de l'INF. Donc, ceux qui se sont intéressés a priori que par l'élite et par le côté, je veux devenir une star, un international, etc.
Et là, ils ont une douzaine d'années.
Exactement, et de prendre ce point de départ pour au contraire dire, mais non, mais ça ne change rien. Ces gamins-là, il faut les éduquer, mais avec les mêmes méthodes que les autres, et en faire des hommes de qualité. Et ça les aidera pour être des champions en plus.
Vous m'avez rêvé. Imaginez que nous aurions fait le même type de reportage avec l'académie de Jean-Marc Guillou au départ. Mais ça aurait été incroyable. Ouais. Vous auriez vu des choses incroyables. Exactement. Avec des joueurs en plus arrivant dans les plus grands clubs du monde.
Justement, Philippe, nous, on est allé par exemple à Diambar il y a quelques années, et c'est ce qu'on nous a dit aussi. C'est-à-dire que tous les joueurs ne finiront pas en équipe nationale du Sénégal et même n'iront pas jouer en Europe ni rien. Mais il y a une éducation en parallèle de l'instruction sportive.
Ah bah, Diambar, c'était un début de départ, de toute façon. Hein. Ça faisait partie du cahier des charges, du côté de M. Sec, hein, celui qui dirige le centre.
Saïr Sec.
Donc, ça, c'était la base de travail. Alors, évidemment, après, vous prenez au jeu quand même, parce que le but, c'est quand même de former des joueurs de foot et de préférence, si ça peut rapporter un peu d'argent qui vous permettent de développer votre centre.
Ça finance le développement du centre. Voilà,
mais il y a quelques mois, Hugo Moissonnier avait reçu dans l'émission, c'était un jeune qui est devenu ingénieur, en fait.
Bien sûr.
Il est passé par une école de foot au Sénégal.
Et dans le Nord, non?
Dans le nord de la France, du côté d'Arras. Et finalement, il est devenu ingénieur. Donc, je veux dire, il n'a pas perdu son temps, même si c'est mieux que les autres jouer au foot.
Bien sûr, mais
Jimmy
Adjovi beaucoup et beaucoup travaillé dessus, etc.
Bien sûr.
Et puis, quand vous connaissez un peu les joueurs de Diambar, il y a plein de joueurs quand même, au niveau. Idrissa Gueye, Gana Gueye, c'est quelqu'un d'incroyable, super mec. Tcheko Kouyaté, etc. Enfin, il y a vraiment toute une génération de types bien. Vous avez Génération Foot aussi qui a énormément travaillé. Foot, ce qu'ils ont réussi à faire.
Il y a plusieurs académies maintenant.
Je suis vraiment bluffé, moi, pour avoir connu un peu le développement de Génération Foot avec Madi Touré. Mais ce qu'ils ont fait, c'est phénoménal. La dernière fois que j'y suis allé, ils ont recréé encore de nouvelles choses.
Ceux qui ont formé notamment Sadio Mané.
Sadio Mané, oui, qui est passé
comme référence,
par,
mais pas le seul.
Là-bas. Oui, qui est pas
Sassou,
le seul. Aujourd'hui, la nouvelle pépite, pense-t-on, du football sénégalais, l'ami Camara,
qui est à Metz, effectivement, il est passé aussi. Mais ça veut dire que ça, ce sont des super modèles, parce que ça a permis à des jeunes qui partaient vraiment, pour certains, de rien, de vraiment rien, et ben déjà d'avoir de l'éducation, de pouvoir progresser, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Et puis, comme vous l'avez dit avec le joueur qui est parti et qui est devenu ingénieur dans de la France, mm-hmm. ben là, c'est une vie qui s'est ouverte. Hein,
exactement.
Qu'il soit footballeur ou pas footballeur.
Alors, dans ce documentaire, Apprendre à être, donc, et qui est disponible hein, sur Internet et notamment sur le site de la Fédération française de football, justement parce que la Fédération française de football a choisi d'ouvrir ses portes et l'INF, donc, aux caméras. Écoutons Jean-François Villotte, qui est le directeur général de la Fédération française et qui nous explique pourquoi ils ont voulu aussi ouvrir les portes sur ce volet et sur cette éducation de base.
Alors peut-être pour attirer l'attention sur le sport en tant que fait social majeur. Précisément, il ne se réduit pas à l'événementiel sportif, fût-il de très grande qualité. C'est un fait social majeur et c'est important de donner ce coup de projecteur pendant cette année olympique parce que en France, le sport n'est pas vraiment pris au sérieux. Je veux dire par là que contrairement aux cultures anglo-saxonnes, on vit le sport dans l'immédiateté de l'événementiel, mais on passe à côté de l'essentiel. La Fédération française de football, ce sont 2 400 000 pratiquants. Ce sont 900 000 jeunes. Ça veut dire qu'il y a 6 gamins sur 10 qui, avant la majorité, vont passer par un club de foot. Ça veut dire que c'est le troisième lieu d'éducation dans notre société, après la famille et l'école. Et c'est quelquefois, dans des quartiers en difficulté, le seul lieu, la seule institution sociale où les jeunes se rendent volontairement. Et ça crée une responsabilité formidable. Et ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'on va comparer l'éducation au sport, l'INF, à d'autres modèles d'éducation. Et au fond, prendre le sport au sérieux, c'est de considérer que les compétences qu'on va acquérir au travers de la pratique, de quelque niveau que ce soit, sont des compétences qui vont être utiles dans la vie sociale, dans le parcours des individus tout au long de leur vie.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut essayer de tenter une carrière d'athlète de très haut niveau et en même temps de s'en servir toute sa vie, même si on n'aura pas atteint une médaille olympique ou une Ligue des champions.
Non, c'était bien de citer les chiffres par Jean-François Villotte pour se rendre compte de l'importance de ce que représente le football, et pas seulement en France. En Allemagne, il y a 8 millions de licenciés, vous vous rendez compte, sur une population de 80 millions. Je veux dire, c'est un fait social qui dépasse largement tous les débordements, tous les vices et vicissitudes que crée le foot. À côté de ça, c'est un fait social pour les jeunes qui est considérable, qui est fondamental. Et trop souvent, le foot l'oublie. Et le milieu du foot l'oublie au bénéfice. C'est bien les quarts de finale de Ligue des Champions ce soir. C'est bien. C'est vachement bien. C'est spectaculaire.
Le politique qui l'oublie aussi.
C'est un moyen d'éducation fantastique.
Et que c'est un monde qui, malheureusement, est en perdition. Moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Les écoles
de football amateur.
Parce que le football, c'est le monde amateur au final. Hein, c'est pas l'élite.
Bien sûr.
Et ce qu'on appelait d'ailleurs avant les écoles de football, on appelait ça les écoles de football où les gamins allaient jouer, s'entraîner. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de bénévoles parce qu'ils ne sont pas aidés, parce qu'ils ne sont pas défrayés, parce que les clubs ont de moins en moins de moyens.
Il y a de moins en moins de clubs aussi.
Il y a de moins en moins de clubs. De clubs meurent dans les villages où avant, l'activité principale, c'était d'aller jouer dans l'équipe de son village.
Et on s'approche de la fin de cette émission. Un rappel des scores de la soirée. Real Madrid, Manchester City 3-3, Arsenal, Bayern Munich 2-2. Merci beaucoup David Lortolari.
Merci Annie.
De nous avoir tenu compagnie. Merci à Rémi et à demain.